De son ancien lycée. Donc jusque-là, elle peut paraître relativement ordinaire, sauf qu'on apprend qu'elle est mêlée régulièrement à des bagarres, qu'elle a brûlé le gymnase de son ancien lycée et surtout qu'elle est l'élue la tueuse de vampires. Donc ça, c'est dans le premier épisode de Giles, le bibliothécaire de la nouvelle école, qui lui dit, voilà, tu es l'élue, elle le sait. Mais elle, c'était pas son choix de vie, c'est que ça lui est tombé dessus. Elle est l'élue, la tueuse de vampires. Lissimane, on va commencer par vous, puisque votre trilogie parue chez Castelmore, La Balance Brisée, présente un certain nombre de points de convergence, on va dire, avec Buffy, avec son univers. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre trilogie?
Bonjour. Donc, La Balance Brisée, ça raconte l'histoire d'une jeune fille, Ellie, qui vient de perdre ses parents dans un accident de voiture. Et elle ne sait pas tout de suite qu'elle a des pouvoirs, elle va les découvrir plus tard au fur et à mesure que le premier tome avance. Et surtout, elle va se rendre compte que sa famille a énormément de secrets. Et plus elle creuse, plus elle découvre des secrets et des mystères liés à sa famille. Et surtout, elle se retrouve à endosser leur héritage, c'est-à-dire que ce qu'ont fait ses parents, elle va devoir le porter. C'est ça qu'elle n'a pas choisi. C'est un peu le premier point commun avec Buffy, cette jeune fille avec qui elle est tout à fait normale. Elle a pensé vraiment emmener une vie ordinaire. Enfin, elle n'a pas vraiment de plan de vie à cet âge-là, elle a encore 13 ans et demi, mais elle ne s'était pas du tout imaginée qu'elle aurait des pouvoirs, qu'elle devrait affronter d'autres mages, éventuellement des créatures aussi. Et elle se retrouve dans cette position avec le soutien de ses amis. Donc elle a son espèce de Scooby Gang aussi avec elle pour l'aider, et qui au fur et à mesure de la série vont aussi révéler leurs propres compétences, éventuellement pouvoir, et ensemble ils vont réussir en gros à triompher des méchants. C'est ça.
Il y a aussi le personnage de Giles qui a un équivalent, je crois, dans votre série.
Tout à fait. En fait, la magie qu'il découvre est assez compliquée, donc il faut l'étudier, et pour cela, un maître de magie. Et donc, c'est le personnage de Maître Dorst, qui est un vieux monsieur grincheux, qui n'aime pas vraiment les gens, et qui en gros rend service à la grand-mère d'Ellie en lui enseignant la magie, sachant que la grand-mère a perdu la boule et qu'elle est enfermée dans un asile. Du coup, Maître Dorst, finalement, est leur point de repère. Il va les aider à apprendre les formules magiques qui vont leur permettre de triompher des méchants. Il va les faire progresser sur leur chemin. Il va incarner aussi la figure paternelle, comme Giles le faisait avec Buffy. Il va beaucoup les rassurer tout en leur permettant de garder une certaine distance par rapport à leur nouveau pouvoir, puisque pour lui, ils sont vraiment de jeunes débutants qui ne connaissent rien de la vie.
Est-ce qu'il y a aussi la thématique des personnages qui sont tenus hors du secret, avec lesquels c'est un peu difficile de discuter, parce qu'il y a une part importante de la vie qui ne partage pas avec les personnages qui ont des pouvoirs magiques.
Tout à fait. Dès le début, en fait, Ellie se retrouve confrontée à ce secret, puisque déjà, elle va percer les secrets de ses parents. Ensuite, elle doit cacher ce qu'elle est à la plupart des gens qu'elle côtoie. Il y a des gens qui sont courants de son secret alors qu'elle ne le savait pas. Et surtout, c'est au collège, auprès de ses amis, qu'elle est obligée de taire ce qu'elle a découvert sur elle-même et sur le monde, en fait, dans lequel ils vivent. Par exemple, ça me fait penser à Cordelia dans la série, qui n'a absolument aucune idée de ce qui se passe. Et qui ne sait pas qu'elle vit dans un monde avec des monstres, etc. Et qui donc a un comportement qui paraît complètement décalé à Buffy. Et Ellie se retrouve exactement dans cette position où elle sait des choses et les autres.
pensé à Buffy contre les vampires en écrivant votre série?
Alors, pas du tout. C'est quand on m'a proposé cette conférence que, du coup, j'ai commencé à faire. Et quand tu m'as proposé, en fait, de parler de la balance brisée dans cette conférence, que je me suis rendu compte que finalement, ça a été assez fondateur. Qu'il y avait pas mal de points de référence au niveau de la construction du collège, la façon dont le groupe fonctionne, Maître Dort par rapport à Giles. Donc c'était assez rigolo de constater qu'il y avait une fin d'influence certaine, étant donné que quand la série est sortie, moi j'ai regardé cette série, j'ai dévoré, je trouvais ça très rigolo, très kitsch et spaghetti, en même temps avec des thèmes de fond abordés, et je trouve tout à fait ça dans ma série. Donc sans doute que ça m'a influencé.
Alors il n'y a pas de vampire par contre dans la balance brisée.
Alors en fait, il n'y a pas de vampire dans ces épisodes-là, mais en fin de compte, lorsque Maître Dorst leur parle de toutes les créatures qui existent, les vampires en font partie, et surtout là, il a peur en fait que la jeune fille se mette dans l'idée de rencontrer un vampire à cause de toute de Twilight et de la symbolique du vampire. Elle veut que ce sont des créatures charmantes auxquelles il est difficile de résister, et du coup, il lui dit de surtout pas essayer de rencontrer. Et il lui rappelle que de toute façon, les mères ont fait le ménage dans cette ville-là, parce que la ville de Trèves est un petit peu comme son email. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mages qui sont présents dans cette ville tranquille, d'apparence ordinaire. Mais du coup, il n'y a pas de vampires, il y a beaucoup de mages.
Alors, chez nos deux autres auteurs, par contre, on trouve des créatures qui ressemblent fort à des vampires. Jeanne Adebatz, dans votre cycle de Navarre, une partie de votre œuvre, donc, ça s'intéresse aux vampires. Métaphysique du vampire, d'abord, et les deux tomes de votre série paru chez ActuSF, L'héritière et Alouette. Est-ce que vous pouvez nous présenter Agnès, votre héroïne, et nous dire un petit peu par rapport à ce qu'on a dit sur Buffy, quels sont un peu les points de convergence avec Buffy, et quels sont les points qui l'en distinguent?
Alors, le véritable personnage central de ma série, c'est Navarre, le vampire. Fondamentalement, tout tourne autour de lui, et c'est un projet littéraire que j'ai commencé en 2005, je crois. Et j'étais parti sur l'idée de visiter à travers, avec un vampire, tous les genres de l'imaginaire de la culture pop. Donc j'ai mis Navarre dans des situations invraisemblables. On a fait des salons western, quasiment un western spaghetti, ça s'appelle Mosquito Toast. J'ai fait du polar, j'ai fait OSS 117 chez les vampires, j'ai fait de la SF avec Navarre, mais de l'art, si on sent Navarre dans l'espace, c'est presque arrivé à un vampire quand il est confronté aux radiations solaires auxquelles il ne peut pas échapper parce que le soleil ne se couche pas dans l'espace. Hein. Voilà, c'est embêtant, mais c'est comme ça. Des choses comme ça, et en fait, la trilogie, parce que ça va être une trilogie de l'héritière, c'est la version biblique de la force. Et
souvent les cimetières, parce que comme tout le monde le sait, les vampires se relèvent et voilà, les morts en fait peuvent se relever et devenir des vampires, et son boulot c'est de leur mettre un peu dans le cœur pour éviter qu'ils aillent tuer des lycéens, ce qui arrive malheureusement assez fréquemment. Et quand l'héritière commence, votre héroïne elle est en train d'escalader la grille du Père Lachaise.
Oui, mais là, elle va voir justement le tombeau de ses parents, parce qu'elle n'a pas pu être présente le jour de l'enterrement, vu qu'elle s'était fait arrêter par les flics, parce qu'elle n'avait pas bien compris que la consommation de cannabis était interdite en France, et qu'elle ne sortait jamais, et que ça avait été son truc pour éviter de croiser les fantômes. Maman sorcière l'a chopée au cannabis depuis toujours pour éviter qu'elle voie des fantômes. En fait, elle est toujours dans un décalage systématique, ma pauvre Annès. Et donc elle s'est fait choper par les flics avec assez de cannabis dans le sang pour un champ aux alentours d'Amsterdam. Donc les flics sont même étonnés qu'elle soit encore en vie, ils la gardent en taule et c'est son oncle qui va l'en sortir. Alors du coup, elle va voir. Ça c'était la première version. Elle sort parce qu'elle a besoin de cas. Et le fait est que ça commence au Père Lachaise. Le Père Lachaise est un endroit que j'aime énormément, je le disais très fréquemment. Elle va y retourner pour une raison tout à fait pratique pour interroger un mort de la commune qui est au Père Lachaise, on a pas mal. Mais c'est, en gros, ce sont ces deux visites dans le cimetière. Et là, ça n'arrive pas dans Alouette. Et dans le troisième tome, je me contente de faire fondre le Sacré-Cœur. Donc, ce que j'aime bien, c'est de détruire à chaque fois une œuvre majeure, pas forcément géniale, hein, mais majeure architecturale. Donc, pareil, ça fait partie de mon motto. Donc, la fois d'avant, c'était Beaubourg, et là, c'est. Alors, Beaubourg, c'est fait. Check. Le prochain, c'est le Sacré-Cœur. Voilà. Mais par rapport à Buffy, elle a pas tellement. En fait, comme j'ai pris le contre-pied de l'héroïne badass, en fait, c'est un rapport inversé par rapport à ma fille, ça c'est clair. Mais c'est une fois de plus un billard à trois bandes, c'est dans le bain de la pop culture, une création de la fille qui est face au vampire. Et ma fille, elle est son sœur, mais comme des sœurs noires et blanches. Enfin, voilà.
Céline Lombassi, on va s'intéresser maintenant à vous et à votre âme. Votre série Rose Morte se déroule en France à la fin du XVIe siècle. C'est un roman fantastique qui suit Lady Rose. Elle a comme fille un caractère bien trempé. Elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle ne veut pas. Et est-ce que vous pouvez nous parler du début du roman et nous dire ce qu'elle ne veut pas au début du roman Lady Rose?
Bonjour. Eh bien, je pense que le premier point commun en fait, qui m'est venu à l'esprit, comme il est finalement, c'est en vous écoutant parler, parce que ça n'était pas du tout passé par la tête, vu que je ne connais pas Buffy, je n'ai pas regardé. Donc là, t'excuses, enfin, je suis désolée, n'hésitez pas à m'instruire, excusez-moi. Donc le point commun qui m'est venu à l'esprit, effectivement, c'est en vous écoutant, effectivement, Rose cherche à elle aussi à échapper à un destin qu'elle ne veut pas dans le monde très pragmatique où elle est née, à savoir c'est une fille d'aristocrate exilée. Elle est donc au XVIe siècle condamnée à prendre coup, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, avec tout ce que ça implique. Donc voilà, vous êtes marié à quelqu'un, vous êtes obligé de porter ses enfants. Avant ça, pour avoir un enfant, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, on sait ce qu'il faut faire. Hélas, j'y ai pensé, mais finalement je me suis dit que ça rentrait pas, donc j'ai laissé tomber. Donc on est, voilà, on en passe par des relations, bien sûr, donc on se confie, etc. Or, c'est une jeune femme, pour nous une jeune femme, pour eux, des filles, à 28 ans, elle est déjà dictative, il est temps de la placer, parce que les temps n'ont pas tardé à tomber. Donc bon, c'était un peu ça à l'époque, mais elle s'acharne, elle veut sa liberté. Donc le point commun majeur à mon avis, c'est ça, échapper à son destin.
Moi, je crois aussi qu'il y a un autre point commun, c'est que quand la situation le veut, elle se barre. Il y a une situation de.
Elle est assez nerveuse. sur ces deux types empiriques, en cela qu'on tape dans les connaissances qu'on a, entre guillemets, dans l'inconscient collectif. Les dents, ils mangent pas, ils boivent du sang, etc., etc. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui diffèrent, et en l'occurrence, puisque je ne défends pas du tout la réalité historique, et que j'ai décidé d'insérer à l'intérieur un monde qu'on ne connaîtrait pas, et qui évoluerait parallèlement au nôtre, avec une influence mutuelle. Et j'ai perdu ce que j'étais en train de dire. Après, elle dit, mon frère, il faut rester couché.
La réalité historique.
Oui, merci beaucoup. Mais comme je ne déforme pas la réalité historique, je ne sais toujours plus.
C'est Arthur, c'est par rapport aux armes martiaux.
Non, c'est pas ça, c'était pas ça ta question.
C'était par rapport au combat. Par rapport au combat,
tu ne déformais pas la réalité historique.
Oui, oui, oui.
Donc, du coup, de ce fait-là, il est extrêmement important de ne pas être repéré. Mais au XVIe siècle, le vampire, ça n'existe pas. Donc, comme je ne déforme pas la réalité, le roman de Bram Stoker est sorti en 1897, mais on commence en 1598. Ce concept n'existe pas. C'est creux, ce n'est pas là. Le mythe existe dans des tas de contrées différentes, sous des tas de noms différents, des tas de versions subtilement différentes. Je ne sais pas si c'est sur le continent africain ou. Je ne sais plus où. La version du vampire est plutôt un cannibale. Il va de son certes, mais qui se sert un petit peu quelques morceaux au passage. Donc, comme quoi, il y en a des tas de versions. Donc, il ne se dénomme pas vampire. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le type vampirique, puisque ce n'est pas un vampire. Ce concept appartient à Bram Stoker et seulement à lui. Toutes les autres versions sont par essence appropriées. Donc, si c'est plus confortable, peut-être, de dénominer comme ça sous cette étiquette qu'on connaît bien, moi je m'en dissocie parce que je ne la comprends pas. Je ne refais pas ce qui a été déjà fait. J'en ai une interprétation en tapant dans l'inconscient collectif et dans ma vision des choses qui est plus terre à terre.
Et moi, je reviens sur le combat parce que
c'est bien, continuez.
Arthur aussi se bat. Il y a un moment où on mentionne les armes martiaux, et du coup, je me suis demandé si c'était parce qu'il dissimulait ses réflexes surhumains, ou est-ce que vous avez voulu un petit peu vous élargir justement la réalité historique, parce que d'habitude, les gentilshommes, ils se battent plutôt à l'épée au XVIe siècle.
Effectivement, absolument. Bravo déjà, parce qu'on ne l'a presque jamais dit, et c'est chapeau, il fallait le voir. Effectivement, c'est un mouvement d'art martial qui sert au lieu, en définitive, à dissimuler ses réflexes et sa rapidité totalement inhumaine. Et quand on est dans une assemblée, il est bon de tempérer les coups d'éclat, tout de même. Et finalement, la réalité historique, non, on n'est pas tant déformé que ça, puisque ce sont des êtres très vieux. Moi, je les dénomme immortels, puisque c'est la plus simple façon de le dire, et pour eux, et ceux qui meurent, et ceux qui ne meurent pas. C'est facile, on les coupe en deux, on les reconnaît facilement. Donc, lui, il a une vie déjà, et on ne sait pas où il est allé. Et en l'occurrence, au XVIe siècle, il y a eu 15 ans passé des choses ailleurs, plus loin. Donc, il a ramené avec lui quelque chose qui n'est pas reconnaissable pour des gens en Europe, en France, en l'occurrence, au XVIe siècle, on ne met pas de nom dessus, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, parce qu'on n'y est pas allé, et on n'a pas pris, et lui, il a eu temps.
J'avoue, vous vouliez intervenir à un moment où je me suis... Non, d'accord. J'avais une question sur la normalité, sur la façon dont vos deux héroïnes, parce que là, pour le coup, je m'adresse à vous deux, est-ce qu'elles acceptent bien leur pouvoir? Est-ce que c'est compliqué pour elles? Et est-ce qu'il va y avoir une évolution dans la façon dont elles voient leur pouvoir? Parce que Buffy, c'est pareil, au début, ça la gonfle, quoi. Franchement, elle aimerait bien ne pas être la tueuse, parce qu'elle pourrait avoir une vie normale, être pom-pom girl, et être tranquille avec ses amis, mais voilà, il y a un lycéen qui est tué dans le lycée, et elle sait que c'est un vampire, et que du coup, c'est elle le psychologue.
Et voilà, juste dire un truc. Moi, si mon avenir, ça va être pom-pom girl, je serais bien pour devenir sorcière, n'importe quoi, mais... Puisqu'on parle d'échapper à son destin, c'est tout plutôt que d'échapper, que d'avoir à échapper ton couleur, là, franchement.
Elle travaille pour réussir à les maîtriser et elle y est très fainéante. c'est une adolescente qui a plus envie de dormir sur son lit que de travailler. Donc elle est vraiment obligée de se faire violence pour travailler et ensuite devenir de plus en plus forte. Et c'est le fait qu'elle soit obligée de se défendre et de se battre et d'affronter d'autres mages à certains moments qui vont la pousser à se dire non, vraiment, il faut que je travaille parce que je n'ai pas envie de mourir à 14 ans. Donc je vais faire un effort. Et du coup, elle se met vraiment à étudier et ensuite à réfléchir à ce qu'elle peut faire pour essayer de s'en sortir.
Et vous, Jeanne, je crois qu'Agnès va trouver un travail finalement en utilisant ses capacités, puisque elle est fille de sorcière, et comme vous l'avez dit, elle voit les fantômes, ce qui dans la vie quotidienne ne l'arrange pas, mais elle va se mettre à travailler avec son oncle, et quelque part, ça va lui donner une sorte de porte de sortie un petit peu dans le monde.
Ça lui donne surtout une ouverture sur le monde, une occupation, parce que jusque-là, à part rester cloîtrée à la maison et regarder des séries télévisées avec des vampires, maintenant, elle n'avait pas beaucoup de sortir, bien que ses parents et son frère aient passé beaucoup de temps à l'amener ici et là, en essayant de maîtriser les conditions extérieures pour lui permettre de respirer un peu, mais en gros, elle a regardé la vie passer de sa fenêtre. Donc, aller au bureau tous les matins chez Tonton Géraud, ça lui donne une assise qu'elle n'avait même pas espéré avoir. Par ailleurs, ses pouvoirs, elle voudrait peut-être. La question n'est pas posée d'échapper, puisque elle ne peut pas. La question est de savoir ce qu'ils sont, en fait. Parce qu'à la base, elle se croit une sorcière du fait de la mésalliance entre sa mère sorcière et son père humain, qui n'aurait eu que la moitié de l'héritage. Puis on s'aperçoit que finalement, elle n'est pas la fille de son père. Ça, c'est dans le premier tome. Dans le deuxième tome, elle n'est pas la fille de sa mère non plus. Et dans le troisième, vous allez dire. Non, mais ce ne sont que des. En fait, ça, c'est. Je peux très bien le spoiler sans problème parce que fondamentalement, ce sont des détails. Ce sont des détails qui trouveront leur justification beaucoup plus tard. Et c'est toute la difficulté d'ailleurs de mettre en scène l'arrivée du lourd, du troisième, qui fait que peut-être je ne le rendrai pas au joint chef. Non, mais il est occupé aux états généraux de l'imaginaire, il arrive en temps plus.
J'ai rendu que je te sens en plus.
Donc, par contre, Agnès se bat, mais à sa manière, à savoir qu'elle a appris un peu à faire le coup de poing contre son frère. Tout le monde a eu des frères, on sait que des fois ça finit en peigné. Mais voilà. Et puis, elle a un jour un sursaut, elle a un type avec ses talons hauts. Voilà. Elle prend sa chaussure à la fin. Et du coup, on lui a offert des talons hauts en argent que le vampire Navarre est allé chercher aux quatre coins de la capitale, etc. Alors, au passage, c'est un argent spécial, sinon ça se tordrait. Hein. c'est nous l'argent. Voilà. Mais c'est pas le truc de Bagnès, c'est pas totalement le combat, c'est de chercher les solutions pour rendre les histoires d'héritage et de divorce. Vous n'imaginez pas un divorce entre vampires, comment c'est l'horreur. Hein. Mais les jets de petites cuillères en argent à la tête, ça c'est. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui s'occupe de ça, et c'est bien.
Ça c'est un point qu'on retrouve aussi dans vos textes, pardon. Sur l'humour, l'humour imprègne évidemment la série Buffy, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais c'est aussi un point qu'on retrouve dans vos textes, particulièrement chez vous, je trouve, Jeanne. Vous mettez votre héroïne dans des situations rocambolesques et après, elle s'en sort comme elle peut.
Pour moi, l'humour, c'est la seule façon d'aborder le système vampirique et la magie parce que. Je suis fondamentalement un écrivain de science-fiction, même si j'ai bizarrement écrit plusieurs d'un fantasy. Mais dans ma tête, j'ai vraiment une organisation logico-scientifique qui a besoin d'avoir des raisons, des causes, toutes causes
tard les plusieurs langues différentes. D'ailleurs, à l'époque, le français était la langue de la diplomatie. Donc, malgré la différence de contrées et des personnages qui peuvent croiser de leur propre engeance, à peu près tout le monde parle français. Viennent très souvent parce que ce sont des gens brillants, ce sont des gens qui ont beaucoup de recul pour la plupart, qui ont un regard sur le monde qui est nécessairement très différent. Et ma foi, comme c'est un monde violent et difficile, l'une des manières les plus simples de démontrer qui l'on est avant de se battre, tomber chiffonnier de son voilier, percuter les murs, c'est d'abord d'exercer une domination de l'esprit. Et donc, les clashs sont souvent, les vibratoires sont savoureuses parce qu'ils ont tous fait la partie. Qui m'échappe d'ailleurs, hein, toutefois je me dis, n'hésitez pas à exagérer là.
Ça, c'est un plaisir aussi évidemment pour les lectrices et les lecteurs.
J'espère, sinon on va attendre trop tard, hein, s'imprimer, c'est futur. Alors j'avais une question sur le fait, est-ce que vous êtes fan, mais je ne vais pas la poser parce que j'ai bien compris une question. En France, je n'ai qu'une fan, merci Lissimane. Alors Lisse, du coup, Lisse, est-ce que Buffy a influencé votre imaginaire et la série Buffy contre les vampires du personnage. Est-ce que la série Buffy contre les vampires a influencé votre imaginaire et si oui, de quelle façon?
Alors, je réponds oui, parce que de toute façon, j'ai regardé toutes les saisons et puis c'est à peu près l'époque où j'ai commencé à écrire. Et de quelle façon, en fait, j'avoue que j'ai une passion pour tout ce qui est monstre, créature et légende. Et du coup, il y a quand même pas mal de choses qui sont balayées dans Buffy contre les vampires. Et à chaque fois, c'est toujours très très drôle. Donc, ça m'a beaucoup parlé à l'époque où j'écrivais. Et j'écris toujours, mais de façon différente, on va dire. Et après, de quelle façon exactement ça a pu influencer ou modifier mon imaginaire, je pense que c'est au niveau des héroïnes que j'ai créées. C'est-à-dire que je ne supporte pas lorsque les héroïnes sont complètement faibles, qu'elles ont besoin d'un chevalier servant pour les secourir. Buffy, même si elle a besoin d'avoir des amis, des gens qui la soutiennent, parce que n'importe qui confronté à ce genre de problème aurait besoin de pouvoir se confier ou de compter sur d'autres personnes, elle peut s'en sortir seule et elle n'a pas besoin d'être sauvée, elle n'est pas passive. Et du coup, je n'ai pas créé, j'ai beaucoup d'héroïnes dans mes romans, j'ai aussi écrit des romans où le héros est un homme, mais les héroïnes sont systématiquement des femmes fortes, pas forcément avec des pouvoirs, mais ce sont des femmes fortes et lorsque elles ont le soutien d'un homme, ce n'est pas lui qui leur vole la vedette. Voilà.
D'ailleurs, Joss Whedon a créé cette série Buffy contre les vampires parce qu'il en avait marre de voir dans les films d'horreur hollywoodiens de l'époque, donc dans les années 80, la jeune femme blonde qui s'éloigne et qui se fait trucider dans les 5 premières minutes. Quoi. Donc Buffy, quand elle s'éloigne, elle va dans une ruelle obscure, d'accord, mais elle va désinguer du vampire. Donc là, on est vraiment sur le personnage de femme forte et je pense que ça, c'est quelque chose qui vous parle toutes les trois, non?
Totalement. Totalement, moi je suis exactement comme disait, j'envisage pas un personnage féminin qui soit la demoiselle en détresse, elle est jeune, elle est perdue, elle a besoin de son monde de rembourser pour s'en sortir. Non, je m'emmerderais terriblement à essayer d'écrire quelque chose dans ce style-là, c'est pas possible. En l'occurrence, c'est elle qui donne le là dans mon environnement, même si par amour, elle essaye de composer. Elle se pose énormément de questions parce que c'est quelqu'un qui a un cœur, qui a un esprit bien placé. Donc, elle s'y pèse et les situations sont très compliquées, mais en aucun cas, elle n'abandonnera. Est-ce qu'elle veut? Elle veut, elle l'aura. Donc, oui, c'est une femme forte, hein, clairement. Là-dessus aussi, je pense.
Oui, clairement.
Je ne suis pas sûre qu'Agnès soit une femme très forte.
D'accord, c'est quand même.
C'est une fille qui sait ce qu'elle ne veut pas, qui ne se laisse pas imposer les choses. C'est l'essentiel de ces tentatives. J'ai fait beaucoup de personnages féminins très forts, dans mes romans de science-fiction, et j'avais envie de créer une fille next door. Vous m'excuserez pour mon accent anglais, c'est une véritable terreur, je crois que je parle beaucoup plus mal que moi
ça le pivot. Donc on va retrouver dans Buffy et dans les histoires de Bitlit, c'est effectivement des femmes qui veulent être libres, même si par ailleurs le monde alentour les bloque de toutes les manières possibles. C'est là où on se retrouve là-dedans. C'est la bataille pour la liberté. Même si c'est pas forcément refuser un héritage, etc. C'est juste, elles veulent être elles-mêmes.
Voilà. Mais c'est même vous aussi, le girl power, ça vous parle?
Oui, je comprends. Elle est très très jeune et au début elle s'affirme un peu comme la chef de bande. Elle n'a pas encore beaucoup de pouvoir. Je disais tout à l'heure qu'elle était fainéante. Bon, c'est vrai qu'elle est fainéante. En fait, ce qui la motive quand même ensuite à apprendre la magie et qui a un gros point commun avec Buffy, c'est qu'elle veut protéger les gens qu'elle aime aussi. Et le fait que d'autres gens dépendent d'elle, la force à assumer ce pouvoir qu'elle reçoit et à le développer, et plus ça va, plus elle va devenir compétente et plus elle va devenir badass, si je veux. Et du coup, c'est très important pour moi de lui avoir donné, de donner à une adolescente de cet âge-là, puisque quand on est au collège, on ne se pose pas forcément encore beaucoup de questions sur le sens de la vie et sur ce qu'on veut devenir, et surtout, on n'a pas beaucoup d'emprise sur son quotidien, en fait. On se contente d'aller en cours et de vivre sa petite vie et de traverser ses petits problèmes et ses petites crises existentielles. Ellie, en fait, dans cette série, prend le pouvoir sur sa vie. Elle prend le contrôle, en fait, de sa vie. Et elle décide d'embrasser son destin et de choisir de suivre cette voie qui lui est offerte. Et je pense que c'est important, dès le plus jeune âge, de parler aussi aux jeunes femmes et de leur montrer qu'il n'y a pas une voie possible, une seule voie tracée. Il y a d'autres chemins et bien sûr, il y a des choses qui parfois nous tombent dessus avec lesquelles on est obligé de vivre et de composer, mais ça ne nous empêchera pas de devenir la personne qu'on a décidé d'être.
Alors, je sais marier de l'internet. Ça, c'était la déclaration de base. Ça me rappelait un truc, Joss Whedon, à propos de Buffy. On lui est tombé sur le dos systématiquement en lui demandant pourquoi ses héroïnes avaient toujours un caractère solidement trempé. Et alors, je vous invite à aller lire l'interview, mais en gros, il raconte qu'on n'arrête pas de lui poser la question, qu'il n'arrête pas de donner une réponse différente à cause de mon père, à cause de ma mère, parce qu'elles sont sexistes, etc. Et à la fin, c'est « Mais pourquoi continuez-vous à me poser cette question de merde ?» C'est pas pour toi que je dis ça. Mais ce qui est extraordinaire, en fait, dans la création de Buffy, et qui est une des raisons pour lesquelles c'est Whedon qui l'a fait et pas un autre, c'est que vraiment, c'est l'apparition des gender studies qui fait vraiment, à mon avis, il y a un point là-dessus. Le moment des marches pour l'égalité, on arrête les discriminations de tous ordres, le plafond de verre, tout ça. Et clairement, Whedon, il est dans cette optique-là. Mais allez la voir, cette interview, elle dit des choses beaucoup plus fines que ce que je viens de dire, mais en plus, c'est drôle, parce que c'est Joss Whedon.
Les gender studies, c'est des études aux États-Unis qui étudient effectivement la place de la femme dans un système qui ne donne pas la première place aux femmes, juste pour ceux qui...
Il y a ça aussi, mais c'est comment, en fait, le genre pose socialement qu'on soit mâle ou femelle, ou quelque chose entre les deux, ou autre chose. Et voilà. Ça me permettrait au jour d'être même, quel que soit le sexe, et le service 3 pièces dans la nature les a gratifiés.
Un des autres points aussi qui était très novateur et qui a fait le succès de Buffy contre les vampires, c'est le mélange des genres. C'est vraiment donc de la série ado qui se passe au lycée avec les questions de popularité, de sport, etc. Mais aussi le fantastique, c'était quand même la première fois qu'il y avait ce duo dans une série, hein, je parle de jeunes filles vampires. Et la comédie, l'horreur, parce qu'il y a vraiment des épisodes qui ont des tonalités, même dans l'épisode, très très différentes. Alors j'ai encore une question pour notre fan, Lucie Van. Quel est votre épisode de Buffy préféré?
Alors, je répondrai tout de suite, le silence de mort, qui est un épisode justement où on voit le mélange des genres, et pour échapper à ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, au fait que quand tu regardes un épisode de Buffy, tu sais comment ça va se terminer, en fait. Tu sais qu'à la fin, elle va vaincre la créature maléfique, mais ça va être toujours au prix de quelque chose, et ça fait progresser surtout les histoires personnelles, voilà. Joss Whedon, qui a sa série était fantastique, formidable, etc., il a commencé à se mettre des défis. Et dans l'épisode du silence des morts, en fait, il voulait imposer le silence à ses acteurs pour les forcer, en fait, à adapter leur jeu et à créer quelque chose de nouveau. Et du coup, il a réutilisé pas mal de références à des contes, etc. Et c'est un épisode qui vire à l'horreur. Alors, je vous raconte en quelques mots. Ce qui se passe, c'est que des démons, les Gentlemen, arrivent à ce niveau, et ce sont des nouveaux démons, et ils ont besoin de récupérer 7 cœurs pour se livrer à un maléfice, une incantation. Je ne me souviens pas très bien, mais en tout cas, ils ont besoin de cœurs. Et pour ce faire, ils se baladent la nuit dans la ville, et pour pouvoir prendre ces cœurs sans que personne ne les en empêche, ils condamnent les gens au silence, c'est-à-dire que plus personne ne peut parler. Et donc, dans cet épisode, déjà, ils sont absolument horribles, ils sont en costume, ils sont à moitié bleus, ils ont des dents pointues, jaunâtres, ils sont atroces, et ils n'arrêtent pas de se balader en souriant de façon démente. Voilà. Donc, ils sont très effrayants, et c'est surtout le fait de ne pas pouvoir crier, en fait, les victimes essaient de crier, il n'y a rien qui sort, et personne ne les entend mourir, et personne ne viendra à leur secours, ce qui fait qu'on est vraiment dans le domaine de l'horreur absolue à ce moment-là. C'est rigolo parce que ça fait écho aussi aux victimes. En général, des fois, on reproche à des victimes de ne pas s'être défendues, de ne pas avoir appelé à l'aide. Mais ça fait écho au fait que quand on a vraiment peur, on est terrorisé, on est paralysé par cette peur.
Le silence des agneaux.
Exactement. C'est justement, il y a des références dans cet épisode aussi au silence des agneaux, d'ailleurs.
C'est étonnant. Il y a pas d'autre chose.
Donc l'épisode se déroule et ce qui est assez fascinant, c'est que dans 75% de l'épisode, les personnages ne parlent pas. Et lorsqu'ils se parlent, c'est uniquement pour se crier dessus, se mentir, se battre. Et à la fin, lorsqu'ils retrouvent leur voix, ils se réconcilient. Et Buffy, l'héroïne, doit faire un point avec son petit copain et tous les deux doivent savoir leur secret. Ils sont de nouveau incapables de se parler. Donc voilà, c'est vraiment un épisode merveilleux au point de vue du jeu des acteurs et de ce qui se passe et de la façon dont ça se résout. Évidemment, ils parviennent à vaincre les monstres, mais le chemin qu'ont fait les différents personnages pendant cet épisode est absolument merveilleux.
Et pour parler avec nos auteurs du mélange des genres, Jeanna de Basse, vous avez parlé à la fois de Big Hit et de fantasy urbaine. Est-ce que vous mettez plutôt votre texte dans l'un ou l'autre catégorie ici et pourquoi?
Alors, si je voulais être un vrai bon test, je te dirais que c'est la science-fiction, puisque ça se passe dans le futur. Et que j'envisage des tas de situations extérieures. Justement, j'adore mélanger les genres, c'est un jeu là-dessus. C'est vrai que j'utilise énormément les codes de la Bitlit dans la trilogie, mais en même temps. De la chose pourrait hésiter puisque la partie navarre opérante, celle qui est la plus importante à mes yeux en fait, la décale plutôt sur la fantaisie urbaine.
c'est cette, ce courant qu'il y avait eu, donc avec notamment Marie-Chey, avec Frankenstein, avec son célébrissime Dracula, ou celui, je cite sans arrêt, Sheridan Le Fanu avec Carmilla, qui était précurseur de Bram Stoker. D'ailleurs, je crois que Bram Stoker l'a mentionné au début de Dracula. Ce fantastique-là est très pragmatique, on sait que vraiment il s'insère dans la réalité complètement et tout ce qui se passe a une incidence dans le monde qu'on connaît. Donc avec les données qu'on a, avec nos réactions, notre contexte géopolitique, etc. Mais ce n'est pas particulièrement amusant, ce n'est pas particulièrement popcorn. Ce qui veut pas dire qu'il ne se passe pas beaucoup de choses et qu'effectivement il n'y a pas de la saveur dans les journaux oratoires, verbales, etc. ou dans un frite sévère. Mais le reste du temps, voilà, il y a une chape de secret et il faut évoluer dans ce contexte-là. Donc je pense que c'est plutôt poétique en ça qu'on va. C'est très pragmatique en fait. À un moment, ça se laisse totalement oublier. Et l'histoire ne prend pas du coup dans ces moments-là. Donc, c'est... Ici, une dernière petite question pour la fin de ma vie. Alors, Angel ou Spike?
Ah, Spike.
Pourquoi?
Ah bon, c'est Spike. Hein. Ah,
on prend les autres parce que vous avez des avis sur la question, hein, je vois.
Il y a un épisode de Spike, elle est dans Torch Wood, il est à tomber.
Le nom.
De toute façon, les anges, ils ne sont pas nets, c'est des acteurs, des gardes de Dieu.
Et puis, quand il reprend ses esprits arrêtés, on voit vraiment le vampire affreux qu'il était. Tandis que Spike, dès le début, on peut embrasser toute sa nature vaste et compliquée. C'est un très méchant vampire, il fait des choses absolument atroces. Mais finalement, il lui arrive tellement de crasse dans cette série. Puisqu'en fait, je souhaite à chaque fois lui demander s'il te plaît, trouve-moi un petit rôle, garde-moi. Et finalement, il est devenu un personnage récurrent comme ça. Et à la fin, lorsqu'il tombe amoureux de Buffy, qu'il va retrouver son âme pour elle, et qu'il revient, il finit par se sacrifier à la fin de sa rédemption. Moi, je trouve ça génial. Et je craque complètement pour Spike.
Mais on a une programmation sociale sur le bad boy, c'est terrible.
On arrive au terme de cette conférence. Pour ceux que ça intéresse, donc il y a eu cette saison de la série de Joss Whedon. Il y a une saison 8 qui existe en comics, un jeu vidéo, et donc pour les fans d'Angel dans la salle, il y a un spin-off centré sur Angel. Je ne sais pas si certaines d'entre vous avaient des questions qui souhaitaient poser à nos auteurs avant qu'on termine sur Buffy ou sur leur texte, ou sur le rapport entre Buffy et leur texte. On a fait le tour de la question. Eh bien, merci à vous tous, à vous toutes, et vous retrouvez bien sûr les autres.